Saint-Malo, enfants oisifs sur la grève, assemblée et solennité. Enclos de murs de diverses époques, qui se divisent en grands et petits, et sur lesquels on se promène, Saint-Malo est encore défendu par le château dont j'ai parlé, et qu'augmenta de tours, de bastions et de fossés, la duchesse Anne. Vue du dehors, la cité insulaire ressemble à une citadelle de granit. C'est sur la grève de la pleine mer, entre le château et le fort royal, que se rassemblent les enfants. C'est là que j'ai été élevé, compagnon des flots et des vents. Un des premiers plaisirs que j'ai goûtés était de lutter contre les orages, de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi ou couraient après moi sur la rive. Un autre divertissement était de construire, avec la reine de la plage, des monuments que mes camarades appelaient des fours. Depuis cette époque, j'ai souvent cru bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite écroulés que mes palais de sable. Mon sort étant irrévocablement fixé, on me livra une enfance oisive. Quelques notions de dessin, de langue anglaise, d'hydrographie et de mathématiques parurent plus que suffisantes à l'éducation d'un garçonnet destiné d'avance à la rude vie d'un marin. Je croissais sans études dans ma famille. Nous n'habitions plus la maison où j'étais né. Ma mère occupait un hôtel, place Saint-Vincent, presque en face de la porte de la ville, qui communique au sillon. Les polissons de la ville étaient devenus mes plus chers amis. J'en remplissais la cour et les escaliers de la maison. Je leur ressemblais en tout. Je parlais leur langage, j'avais leur façon et leur allure, j'étais vêtu comme eux, déboutonné et débraillé comme eux. Mes chemises tombaient en loques, je n'avais jamais une paire de bas qui ne fût largement trouée, je traînais de méchants souliers éculés qui sortaient à chaque pas de mes pieds. Je perdais souvent mon chapeau et quelquefois mon habit. J'avais le visage barbouillé, égratigné, meurtri, les mains noires. Ma figure était si étrange que ma mère, au milieu de sa colère, ne pouvait empêcher de rire et de s'écrier « Qu'il est laid !» J'aimais pourtant et j'ai toujours aimé la propreté, même l'élégance. La nuit, j'essayais de raccommoder mes lambeaux. La bonne Villeneuve et ma Lucille m'aidaient à réparer ma toilette afin de m'épargner des pénitences et des gronderies. Mais leur rapiéçage ne servait qu'à rendre mon accoutrement plus bizarre. J'étais surtout désolé quand je paraissais dégonillé au milieu des enfants, fier de leur habit neuf et de leur braverie. Mes compatriotes avaient quelque chose d'étranger qui rappelait l'Espagne. Des familles malouines étaient établies à Cadix. Les familles de Cadix résidaient à Saint-Malo. La position insulaire, la chaussée, l'architecture, les maisons, les citernes, les murailles de granit de Saint-Malo lui donnent un air de ressemblance avec Cadix. Quand j'ai vu la dernière ville, je me suis souvenu de la première. Enfermés le soir sous la même clé dans leur cité, les Malouins ne composaient qu'une famille. Les mœurs étaient si candides que de jeunes femmes qui faisaient venir des rubans et des gaz de Paris passaient pour des mondaines dont leurs compagnes effarouchées se séparaient. Une faiblesse était une chose inouïe. Une comtesse d'Abbeville ayant été soupçonnée, il en résulta une complainte que l'on chantait en se signant. Cependant, le poète, fidèle, malgré lui aux traditions des troubadours, prenait parti contre le mari, qu'il appelait un monstre barbare. Certains jours de l'année, les habitants de la ville et de la campagne se rencontraient à des foires appelées assemblées, qui se tenaient dans les îles et sur des forts autour de Saint-Malo. Ils s'y rendaient à pied quand la mer était basse, en bateau lorsqu'elle était haute. La multitude de matelots et de paysans, les charrettes entoilées, les caravanes de chevaux, d'ânes et de mulets, le concours des marchands, les tentes plantées sur le rivage, les processions de moines et de confréries qui serpentaient avec leurs bannières et leurs croix au milieu de la foule. Les chaloupes allant et venant à la rame ou à la voile, les vaisseaux entrant au port ou mouillant en rade, les salves d'artillerie, le branle des cloches, tout contribuait à répandre dans ces réunions le bruit, le mouvement et la variété. J'étais le seul témoin de ces fêtes qui n'en partagea pas la joie. J'y paraissais sans argent pour acheter des jouets et des gâteaux. Évitant le mépris qui s'attache à la mauvaise fortune, je m'asseyais loin de la foule auprès de ces flaques d'eau que la mer entretient et renouvelle dans les concavités des rochers. Là, je m'amusais à voir voler les pingouins et les mouettes, à béer au lointain bleuâtre, à ramasser des coquillages, à écouter le refrain des vagues parmi les écueils. Le soir au logis, je n'étais guère plus heureux. J'avais une répugnance pour certains mets. On me forçait d'en manger. J'implorais les yeux de la France qui m'enlevait adroitement mon assiette quand mon père tournait la tête. Pour le feu, même rigueur. Il ne m'était pas permis d'approcher de la cheminée. Il y a loin de ces parents sévères ou bas enfants d'aujourd'hui. Mais si j'avais des peines qui sont inconnues de l'enfance nouvelle, j'avais aussi quelques plaisirs qu'elle ignore. On ne sait plus ce que c'est que ces sonalités de religion et de famille, où la patrie entière et le dieu de cette patrie avaient l'air de se réjouir. Noël, le premier de l'an, les rois, Pâques, la Pentecôte, la Saint-Jean, étaient pour moi-même des jours de prospérité. Peut-être l'influence de mon rocher natal a-t-elle agi sur mes sentiments et sur mes études. Dès l'année 1015, les Malouins firent vœu d'aller aider à bâtir de leurs mains et de leurs moyens les clochers de la cathédrale de Chartres. N'ai-je pas aussi travaillé de mes mains à relever la flèche abattue de la vieille basilique chrétienne? Le soleil, dit le père Monnoir, n'a jamais éclairé Conton, où est parue une plus belle constante et invariable fidélité dans la vraie foi que la Bretagne. Il y a 13 siècles qu'aucune infidélité n'a souillé la langue qui a servi d'organe pour prêcher Jésus-Christ. Il est un être qui ait vu breton, bretonnant, prêcher une autre religion que la catholique. Durant les jours de fête que je viens de rappeler, j'étais conduit en station avec mes sœurs aux divers sanctuaires de la ville, à la chapelle de Saint-Aaron, au couvent de la Victoire. Mon oreille était frappée de la douce voix de quelques femmes invisibles. L'harmonie de leurs cantiques se mêlait au mugissement des flots. Lorsque, dans l'hiver, à l'heure du salut, la cathédrale se remplissait de la foule, que de vieux matelots à genoux, de jeunes femmes et des enfants lisaient avec des petites bougies dans leurs heures, que la multitude au moment de la bénédiction répétait encore le Tantum Ergo, que dans l'intervalle de ces chants, les rafales de Noël frôlaient les vitraux de la basilique, ébranlaient les voûtes de cette nef, que fit résonner la mâle poitrine de Jacques Cartier et de Dubé Trouin, j'éprouvais un sentiment extraordinaire de religion. Je n'avais pas besoin que la Villeneuve me dît de joindre les mains pour invoquer Dieu par tous les noms que ma mère m'avait appris. Je voyais les cieux ouverts, les anges offrant notre encens et nos vœux. Je courbais mon front. Il n'était point encore chargé de ces ennuis qui pèsent si horriblement sur nous qu'on est tenté de ne plus relever la tête lorsqu'on l'a inclinée au pied des autels. Tel marin, au sortir de ses pompes, s'embarquait tout fortifié contre la nuit, tandis que tel autre rentrait au port en se dirigeant sur le dôme éclairé de l'église. Ainsi la religion et les périls étaient continuellement en présence, et leur image se présentait inséparable de ma pensée. À peine étais-je né, que je vis parler de mourir, Le soir, un homme allait avec une sonnette de rue en rue, avertissant les chrétiens de prier pour un de leurs frères décédés. Presque tous les ans, des vaisseaux se perdaient sous mes yeux, et, lorsque je m'y battais le long des grèves, la mer roulait à mes pieds des cadavres d'hommes étranges, expirés loin de leur patrie. Madame de Chateaubriand me disait, comme sainte Monique disait à son fils, « Nihil longe est Deo, rien n'est loin de Dieu. » On avait confié mon éducation à la Providence, elle ne m'épargnait pas les leçons. Voué à la Vierge, je connaissais et j'aimais ma protectrice que je confondais avec mon ange gardien. Son image, qui avait coûté un demi-sou à la bonne Villeneuve, était attachée avec quatre épingles à la tête de mon lit. J'aurais dû vivre dans ces temps où l'on disait à Marie « Douce dame du ciel et de la terre, mère de piété, fontaine de tout bien, qui portaste Jésus-Christ en vos précieux flancs, belle très douce dame, je vous remercie et je vous prie. » La première chose que j'ai su par cœur est un cantique de matelot commençant ainsi. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra finir mon sort, obtenez que je meure la plus sainte mort. J'ai entendu depuis chanter ce cantique dans un naufrage. Je répète encore aujourd'hui ces méchantes rimes avec autant de plaisir que des vers d'Homère. Une madone coiffée d'une couronne gothique, vêtue d'une robe de soie bleue, gardée d'une frange d'argent, m'inspire plus de dévotion qu'une vierge de Raphaël. Du moins, si cette pacifique étoile des mers avait pu calmer les troubles de ma vie. Mais je devais être agité, même dans mon enfance. Comme le dattier de l'Arabe, à peine ma tige était sortie du rocher, qu'elle fut battue du vent.